Dans la chute de Camus, celui qui parle a été dans le passé un avocat renommé, et il y a sur ce métier des pages aussi cyniques que désespérées, notamment quand il se souvient de l'exactitude de son ton, de la justesse de son émotion, la persuasion et la chaleur, l'indignation maîtrisée de ses plaidoiries, ou quand il dit « j'étais du bon côté, cela suffisait à la paix de ma conscience, le sentiment du droit, la satisfaction d'avoir raison, la joie de s'estimer soi-même sont des ressorts puissants pour nous tenir debout ou nous faire avancer ». Je pense à cette page, surtout un peu plus loin, une page terrible, où il parle de sa vocation des sommets. Ma profession, avocat, m'enlevait toute amertume à l'égard de mon prochain que j'obligeais toujours, sans jamais rien lui devoir. Elle me plaçait au-dessus du juge que je jugeais à son tour, au-dessus de l'accusé que je forçais à la reconnaissance. Pesez bien cela, cher monsieur, je vivais impunément. Je n'étais concerné par aucun jugement. Je ne me trouvais pas sur la scène du tribunal, mais quelque part dans les cintres, comme ces dieux que de temps en temps on descend au moyen d'une machine pour transfigurer l'action et lui donner son sens. Après tout, vivre au-dessus reste encore la seule manière d'être vu et salué par le plus grand nombre. Dans la chute de Camus, celui qui parle n'est plus avocat, heureusement. Sur sa carte de visite, il aimerait qu'il soit écrit Jean-Baptiste Clamence, comédien.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il la vocation des sommets, avocat, pénaliste. Son nom et sa voix résonnent si souvent dans l'actualité que tout le monde le connaît. Ce n'est pas à la cour qu'on le retrouvera dès demain, mais sur les planches du Théâtre de la Madeleine, pour la reprise d'un seul en scène, À la barre, où il raconte son parcours, ses combats. Il jouera bientôt à Lyon, Enghien, Strasbourg, Aix-en-Provence. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci de m'inviter.
Tout d'abord, parce que je vais vous dire, moi, c'est une question qui me passionne. De quelle responsabilité est-ce qu'on se sent investi quand on fait votre métier ?
Il faut convaincre. Peu importe la morale, il faut gagner.
Peu importe la morale ?
Oui, bien sûr, la morale c'est quelque chose que l'on réserve pour soi, pour les gens qu'on aime, pour ses enfants, pour les proches. Pour les amis.
La justice, pour autant, n'entretient aucune relation, aucun lien avec la morale ?
Si, bien sûr que si, mais c'est justement la raison pour laquelle l'avocat doit se détacher de la morale.
Prêter sa voix.
Moi, je ne suis pas là pour juger ceux pour qui je plaide, je prête ma voix.
Ça veut dire ça, avocat, vous le dites dans le spectacle, prêter votre voix à un individu, qu'il soit accusé ou parti civil. Mais qu'est-ce que ça implique pour vous ?
Prêter sa voix d'abord à quelqu'un qui souvent n'en a plus. Parce que c'est difficile d'être accusé ou d'être parti civil. Et c'est la raison pour laquelle il faut gagner avec une obligation qui n'est pas une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour parvenir à un résultat acceptable.
Alors dans votre spectacle, À la barre, vous dites que notre société est devenue moralisatrice. À quoi vous pensez, au juste ?
Mais ne voyez-vous pas autour de nous la naissance de nouveaux Saint-Just, d'une nouvelle morale, d'une bienséance, d'un manichéisme qui nous conduit forcément à aller soit vers le noir, soit vers le blanc, sans nuance? Ne sentez-vous pas que les uns jugent les autres et les uns sont aujourd'hui les censeurs des autres?
Que tout le monde peut s'improviser juge et que ça a une incidence sur le fonctionnement de la justice et sur les décisions des juges?
Forcément.
Et lorsqu'une décision de justice est contestée, lorsque les habitants de Levallois-Perret, par exemple, brandissent des panneaux en faveur de votre client, Liberty for Balkany, ils s'improvisent juge, eux aussi?
Non, ils rappellent peut-être qu'il n'est pas qu'une fraude fiscale et qu'il est un bon maire, peut-être, et qu'il est un homme aimé dans sa commune, effectivement.
Non, mais Liberty for Balkany, ça veut dire libérez-le.
Ben oui, mais il y a des gens qui ont envie de dire qu'il n'a rien à faire en prison.
Vous dites?
Et qui le disent.
Et vous en êtes-vous?
Ben moi je suis son avocat. Vous imaginez bien quand même que je ne vais pas vous dire que je suis ravi qu'il soit en prison.
Vous dites, Éric Dupond-Moretti, pour être juge, il faut aimer les hommes.
Ah oui, j'en suis convaincu.
C'est quoi un homme pour vous?
Ben d'abord, c'est quoi un juge qui aime les hommes, si vous le voulez bien. Parce qu'il y a des gens qui intègrent la magistrature... parce qu'ils ont un sens profond de l'humanité. Moi, j'ai connu de très grands juges dans mon parcours professionnel. Des gens qui aiment le contradictoire, qui sont humains, qui sont indépendants. Puis j'ai connu aussi un tas de types qui sont rentrés là pour régler leurs petits comptes avec eux-mêmes. Et ceux-là, ils sont détestables, infiniment détestables.
Vous parlez moins des juges que des hommes, là.
D'accord, mais d'abord parlons des juges. Bah, c'est quoi un homme ? C'est un peu d'ombre et un peu de lumière.
Et pour être avocat, faut-il les aimer, les hommes ?
Ah, je crois qu'il faut aimer les gens profondément, oui.
Ça veut dire que vous aimez tous les individus que vous défendez ?
Écoutez, je les aime pas avant, je les aime pas après, je les aime pendant.
Existe-t-il un individu, ou a-t-il existé un individu que vous avez refusé de défendre ?
Oui, bien sûr.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il m'a demandé de plaider une cause. Moi, je suis pas un plaideur de cause. J'ai déjà expliqué 100 fois que j'aurais pu défendre Forisson, mais pas Forisson qui me demande de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé.
Parce qu'il y a une limite quand même morale.
Oui, que je m'impose à moi-même, mais que je n'impose pas aux autres. Il y a, bien sûr que vous pouvez pas plaider quelque chose auquel vous ne croyez pas du tout.
Est-ce que vous diriez, Éric Dupond-Moretti, qu'on a vraiment intégré l'idée que la défense est un droit essentiel ?
Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non.
Parce que c'est ça que je retiens, moi, beaucoup.
Non, 80% des Français n'aiment pas les avocats et 70% des Français aiment leur avocat. C'est-à-dire que quand ils ont des emmerdements, ils se rendent compte quand même qu'il faut aller voir un avocat. Ils adorent l'ordre, mais c'est pas dans l'hermine d'un avocat général que des gens qui ont des difficultés avec, avec la justice vont se réfugier.
Alors qu'est-ce que ça veut dire rendre justice ? Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Est-ce que c'est pas une notion qui peut sembler relative, selon l'endroit où on se place ?
C'est totalement relatif, selon l'endroit, pardonnez-moi, et selon les époques.
Qu'est-ce que vous trouvez injuste, vous, Éric Dupond-Moretti ?
Ce que je trouve injuste, c'est quand un homme est jugé sans qu'on ait pris en considération sa part d'humanité, son histoire. C'est quand un homme se voit infliger une peine sans qu'on ait appliqué un sacro-saint principe qui s'appelle la personnalisation de la peine.
Et de quelles injustices est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été victime, vous ?
Personnellement ?
Oui.
Oh ben... Des tas d'injustices, mais qui sont fondatrices.
Familiales ?
Familial, je suis le fils d'une maman immigrée italienne. C'est pas forcément facile. La perte de mon père, c'est pas facile. Le meurtre de mon grand-père, qui était un rital dont tout le monde se moquait, il n'y a pas eu d'enquête, on n'a jamais retrouvé son meurtrier, et pour cause. Tout ça sont des injustices.
On s'en remet de l'injustice ?
On en fait quelque chose, en tous les cas.
J'aimerais lire un extrait du texte de votre spectacle, Éric Dupond-Moretti, un extrait où vous nous parlez de ce que vous appelez une nouvelle catégorie sociologique, celle de victime. La victime a le monopole du cœur, de la souffrance, de la dignité. Je veux bien l'entendre. Mais quand on incite les victimes à se regrouper entre elles, leur malheur partagé finit par leur procurer une forme de confort au détriment de la guérison de leur traumatisme. Exister en tant que victime, montrer un exemple, n'encourage pas à en finir avec son chagrin. La priorité, après un drame, c'est de s'en remettre, pas de s'en repaître. Ce sont des mots très durs. Vous avez conscience de ça ? Ce
sont des mots très durs, mais ce sont des mots très vrais. En réalité, je dis également que certains politiques se sont servis des victimes à des fins électoralistes. Et en voulant faire du bien aux victimes, on leur fait parfois du mal, parce qu'au fond, les laisser dans cette nouvelle catégorie sociologique que la victime avec un V majuscule ne leur permet pas la résilience. Or, ce que la justice doit permettre aux victimes, c'est d'aller vers la résilience.
Ça, c'est ce que vous pensez ou ce que vous avez constaté ?
Ah, mais c'est ce que j'ai constaté. Bien sûr, il y a une dérive totale. Mais vous savez, ce sont des mouvements de balancier. Durant des années, on a méprisé les victimes d'une certaine façon. Et aujourd'hui, peut-être, en fait-on un peu trop.
C'est dangereux ?
Oui, c'est dangereux, mais ça se rétablira dans l'autre sens. Quand, j'en sais rien, mais, forcément.
Quand on vous accuse, Éric Dupond-Moretti, d'avoir aucune empathie envers les victimes, vous répondez quoi ?
Je réponds que c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'on pense de vous ? Qu'est-ce que vous en faites, en fin de compte ?
Ben, quand on pense du bien, je prends. Quand on pense du mal, je laisse.
Celle qui n'a aucune empathie dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité sans cœur, sans queue, sans tête, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 23 septembre ?
Il y a au Maroc entre 500 et 600 avortements clandestins par jour. Cette politique de l'hypocrisie entraîne énormément de souffrance chez les femmes et chez les hommes aussi, bien sûr.
Nous, citoyennes et citoyens marocains, déclarons que nous sommes hors la loi 48 ans après le manifeste des 343 salopes. La romancière Leïla Slimani et la cinéaste Sonia Terrab publient dans Le Monde et dans une dizaine de médias marocains une tribune appelant les autorités du pays à engager un débat national sur les libertés individuelles. En 2018, au Maroc, écrivent-elles, 14 503 personnes ont été poursuivies pour des relations hors mariage, 3 048 personnes ont été incarcérées pour adultère et chaque jour, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués. Faire changer la loi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une faveur, c'est une nécessité. Soutien, respect.
Oh, c'est de toute beauté.
Passion patrimoine, en même temps que les manifestations pour la planète et la justice sociale, c'était ce week-end les journées du patrimoine. Au total, 12 millions de personnes se sont déplacées pour profiter des portes ouvertes de monuments nationaux, notamment celles, comme d'habitude, de l'Elysée ou du Sénat, star incontestée de l'événement. Au rang des nouveautés plébiscitées, on citera l'expo Revoir Notre-Dame sur quelques-unes des pièces qui ont survécu à l'incendie de la cathédrale, notamment le fameux coq miraculé. Cocorico.
This is just getting ridiculous.
Émise en folie hier soir à Los Angeles, la cérémonie des Emmy Awards, genre d'Oscar de la télévision américaine, a remis ses récompenses tant attendues. Résultat, si Game of Thrones s'offre le prix de la meilleure série dramatique pour son ultime saison, la grande gagnante de la soirée restera incontestablement Fleabag. La comédie noire et grinçante repart avec 4 trophées, dont ceux de la meilleure série comique et du meilleur scénario comique, mais aussi celui de la meilleure actrice pour une série comique pour son interprète et créatrice Phoebe Waller-Bridge. Go, go, girl!
Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours.
Ça c'est pour vous, maître Dupond Moretti, petit ours brun orphelin. L'auteure française Claude Lebrun s'est éteinte samedi, elle avait 90 ans, professeure de lettres de carrière. Elle avait inventé dans les années 70 le célèbre personnage du petit ours aux yeux tout ronds. Près d'une quarantaine d'aventures enfantines de son héros mignon avaient été publiées dans le magazine Pomme d'Api. Elles sont toutes à retrouver encore aujourd'hui sous forme de jolis albums illustrés aux éditions Bayard Jeunesse. Cœur avec les doigts. Et Éric Dupond-Moretti, donc invité de Boomerang ce matin pour À la barre, son premier seul en scène qu'il reprend à partir de demain, prendre la parole sur une scène de théâtre. Quel geste est-ce que c'est pour vous?
C'est pour moi la possibilité d'expliquer ma vision de la justice et ma vision du métier d'avocat, parce que personne, enfin peu de gens savent vraiment ce que c'est qu'un avocat. Et je m'en suis rendu compte après l'affaire Mérin.
Pourtant, on vous voit beaucoup dans les médias, on pense à la même chose là, en parler du métier d'avocat.
Non, dans les médias, je parle plutôt d'une affaire. Je suis invité dans le cadre d'un dossier, quand il est terminé, parce que moi je ne prends jamais la parole avant ou pendant les affaires, essayer d'expliquer un certain nombre de choses, développer une argumentation, mais rarement on parle du métier d'avocat en profondeur.
Alors, quand vous êtes dans un tribunal, votre enjeu c'est de défendre effectivement un client, qu'est-ce que vous avez l'impression de défendre sur une scène de théâtre ?
Mes idées.
Votre liberté?
Oui, bien sûr.
Ça veut dire quoi pour vous être un homme libre, Éric Dupond-Moretti? Vous qui avez récemment essuyé certaines accusations de la part d'un homme politique, Jean-Luc Mélenchon, quant à vos relations avec le pouvoir.
D'ailleurs, c'est un lien direct avec le théâtre, puisque la photo, vous le savez, la fameuse photo qui serait la preuve d'un complot, elle a été prise au théâtre de la Madeleine. Elle a d'ailleurs été un peu truquée, cette photo, puisque je me retrouvais presque collé serré avec Madame Brigitte Macron, ce qui était là la preuve du complot ourdi contre Jean-Luc Mélenchon. C'est assez pathétique. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a dit, ce Dupond-Moretti, je ne l'ai jamais vu, ça doit être un homme parfait. Il m'a enchanté, là, à ce moment-là du discours. Puis il ajoute, non, je l'ai jamais vu, sauf qu'il y avait des photos de Mélenchon et de moi, à Marseille, qui ne sont la preuve de rien, sauf que j'ai rencontré un jour Mélenchon, voilà.
Mais la question que ça pose, c'est la question de la liberté, parce que c'est de ça qu'on vous a accusé. Qu'est-ce que ça veut dire être libre pour vous?
Ben, ça veut dire, par exemple, quand on est avocat, monter au théâtre, plutôt que d'aller jouer au golf. Ça veut dire pouvoir exprimer les choses sans contrainte particulière.
N'empêche, c'est passionnant, parce qu'au début de votre spectacle, vous dites que vous êtes condamné à plaider. Comment est-ce qu'on peut être à la fois libre et condamné?
Je suis condamné en ce sens que ce métier-là me permet d'apaiser mes névroses.
Ouais.
C'est une espèce de revanche contre l'injustice originelle. Et donc j'ai besoin de ce métier-là. Et puis tous les métiers d'expression orale, le vôtre aussi sans doute, c'est une forme de psychanalyse ou de psychothérapie.
Pour autant, vous vous sentez libre quand tous les regards sont braqués sur vous?
Oui, je me sens totalement libre.
Quand tout le monde vous écoute?
Oui, ça ne m'empêche pas, parce que les gens m'écoutent, de dire des âneries. Je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Je souhaite pouvoir exprimer un certain nombre de choses que je fais au théâtre en toute liberté, pour reprendre ce mot.
Quand est-ce que vous avez compris que les mots avaient du pouvoir ?
Ah, très vite. Les mots, c'est la vengeance des moches. Ah, et moi, j'ai compris que je ne pourrais séduire qu'au travers des mots.
Non, mais c'est-à-dire que vous dites dans votre spectacle que vous n'iriez pas pécho en Tebois.
Ouais.
Effectivement que...
Ah, pourquoi effectivement ?
La passion pour le langage. On disait ça dans les années 70 ou pas ? Je me suis posé la question.
Non, mais les adverbes sont inutiles, effectivement. Bah oui, je me suis rendu compte que, si vous voulez, j'étais un peu bouboule quand j'étais gamin. J'avais beaucoup de mal à attirer le regard des filles. Je me suis rendu compte très vite que j'irais pas pécho en Tebois, pour reprendre...
Bon, il va falloir arrêter, hein, cette expression, elle est malheureuse, Eric.
Oui, mais elle est malheureuse, mais elle est vraie.
Non, mais ce qu'elle dit, et moi qui me passionne, c'est que ça a quelque chose à voir avec la séduction, le langage.
Mais évidemment.
Chez vous, essentiellement.
Bah, chez moi, chez tout le monde, quand on se parle, on essaie de séduire son interlocuteur. Bon, et je me suis rendu compte que les mots étaient la façon d'échapper à...
À quoi ?
Ben, d'échapper à un physique qui n'était pas un physique des plus gracieux.
Mais c'est quoi le problème exactement ?
Ben, le problème, c'est qu'on a envie de séduire quand on est un gamin et quand on est adolescent.
Et aujourd'hui, par la grâce des mots, vous vous sentez beau ?
Ah ouais, infiniment.
Qu'est-ce qui rend une personne belle pour vous ? Ah, c'est une vraie question, ça.
Bon, il y a des critères physiques qui sont ceux qu'on retrouve dans les magazines de mode.
Pas seulement, je suis sûr.
Mais pas seulement, voilà, vous avez raison. Après, il y a la beauté de son âme. Et puis, les mots, c'est la forme. Les mots, c'est le vecteur.
Pourquoi vous êtes ému, là ?
Pourquoi vous dites que je suis ému ?
Parce que vous avez les yeux qui brillent.
Parce que ça m'émeut d'évoquer l'importance des mots dans ma vie. Il n'y avait pas de télé quand j'étais gamin, mais j'avais une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui n'avait pas le certificat d'études, mais qui écrivait merveilleusement et qui était cruciverbiste. Et quand on avait mangé, elle nettoyait la table et la nappe plastifiée, et puis on s'installait avec nos mots croisés. Voilà pourquoi je suis ému. Et je savais quand j'étais petit que no, c'était en théâtre japonais de lettres no, et j'adorais ça. Et j'ai un amour des mots qui me vient de là.
Il y a quelque chose à voir avec la beauté, hein. Un peu de beauté ce matin, ça n'aura pas de mal, tiens. Après tout, on est lundi matin, on devrait toujours se réveiller, c'est mon avis, avec un petit Johnny Cash. I Walk the Line, en 1956, vous êtes sur France Inter avec Eric Dupond-Moretti, vous écoutez Boomerang en beauté et en liberté.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'il est impressionnant, hein. Il faut le reconnaître quand même, aussi bien par la manière dont il vous regarde sans jamais vous lâcher d'un cil, que dans sa façon de parler. Et vas-y que je t'embobine, ni vu ni connu. Voilà que je t'embrouille.
Ouais,
on est quelque part entre caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, tu peux bien les offrir à une autre. Et le Père Noël, en civil, en dehors de ses heures de service, il a un t-shirt noir et des lunettes. Ce matin, l'avocat et homme de scène désormais, Éric Dupond-Moretti, invité de Boomerang pour À la barre, un spectacle dans lequel vous revenez sur votre vie, sur votre parcours, sur votre carrière. Votre famille aussi. Dans quelle famille est-ce que vous avez grandi ?
Dans une famille où il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup de travail.
Vous parliez de l'Italie.
Oui.
Quand votre mère est-elle arrivée en France ?
Ma mère, elle est arrivée en France à la fin des années 50.
Et quel pays est-ce que c'était pour elle, la France ?
C'était le pays de l'espérance. Et ma famille maternelle a fui l'Italie et la misère pour la France de l'après-guerre. Et ma mère, quand elle est arrivée, le lendemain de son arrivée, elle travaillait dans une faïencerie.
Alors c'est intéressant parce que pour vous, Éric Dupond-Moretti, dans quelle France est-ce que vous avez le sentiment de grandir, du coup ?
Ah, moi, j'adore ce pays et j'ai la double nationalité. Et je dis que c'est une richesse incroyable d'avoir une double nationalité ou une double culture.
Vous êtes sévère avec la France ?
Non, je suis pas sévère avec la France. J'aime la France profondément. Et je ne l'aime pas quand elle s'éloigne de ce qu'elle doit être, la terre des droits de l'homme. Je ne l'aime pas quand j'apprends que un sondage récent, c'est l'Institut Jean Jaurès, nous informe que 57% des Français sont pour le rétablissement de la peine de mort.
Vous ne l'aimez pas quand elle n'accueille pas ?
Je ne l'aime pas quand elle n'accueille pas, non.
Dans quelle mesure, Éric Dupond-Moretti ?
Je ne l'aime pas quand elle fait une part importante au populisme.
Dans quelle mesure est-ce que vous avez fait l'expérience de la honte, vous ?
Moi, directement, je ne l'ai pas ressenti, je ne l'ai pas éprouvé, sauf que dans ma famille maternelle, parfois, on entendait du Sal Macaroni et c'était douloureux. Et ça, c'était honteux, d'une certaine façon.
Vous le gardez toujours en tête, ça ?
Oui.
Encore aujourd'hui ?
Bien sûr. Je pense qu'on transporte tout ça toute sa vie.
Et qu'est-ce qui vous rend fier ?
Qu'est-ce qui me rend fier ? On parle de la France, là, toujours ?
Ou de vous ?
Moi, je peux pas répondre à cette question.
Votre famille, quand même, j'ai l'impression. Votre père, qui est mort d'un cancer alors que vous étiez jeune, ses parents ont beaucoup participé à votre éducation. Et puis votre grand-mère, communiste, qui, à vous entendre, fumait énormément.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette grand-mère ?
À fumer. Non, mais...
Ah bah super, hein. Non, merci mamie.
Non mais je lui dois ça, malheureusement. Ma grand-mère, elle était extraordinaire. C'était une communiste qui avait sauté en parachute pendant la guerre et avec sa propre mère, elles avaient hébergé deux enfants juifs dans une ferme du Nord. C'était une juste, ma grand-mère. C'est une femme incroyable. C'était des ouvriers d'usine à l'ancienne. Ils faisaient leurs gamelles. Vous savez, les gamelles en émail, ils préparaient ça, puis ils allaient bosser à l'usine. C'était des gens exceptionnels.
Qu'est-ce qu'il en reste de ces valeurs communistes dans lesquelles vous avez baigné, Éric Dupond-Moretti ?
Vous savez, moi je trouve que c'est une chance de naître dans un milieu populaire. Moi j'ai jamais eu faim, c'est pas Cosette. Voilà, c'était compliqué, mais... Et puis quand vous devenez un bourgeois, parce que je suis devenu un bourgeois, ce parcours, il est forcément éclectique, parce que il vous conduit à vous souvenir que vous avez côtoyé des gens modestes, et j'en côtoie encore, puisque ma famille est toujours là, et puis vous côtoyez d'autres, et puis ça vous donne beaucoup d'aisance, ça vous permet d'aller plus aisément des uns aux autres. Quand vous êtes issu d'une famille bourgeoise, peut-être, vous avez peut-être plus de mal à regarder les gens modestes. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut un effort supplémentaire.
Il reste aussi un goût pour la révolte ?
Ah ouais, bien sûr. sinon faut changer de métier. Ouais.
Pour l'insoumission ?
Ah ben je suis un insoumis, Jean-Luc Mélenchon ne le sait pas, mais je suis un insoumis.
Ça veut dire quoi être insoumis pour vous, Éric Dupond-Moretti ?
Ça veut dire... dire les choses... les exprimer, même si elles ne sont pas dans le dans la bienséance ou la bien-pensance.
Ça veut dire aussi...
Vous savez, défendre un homme, c'est en général, quand vous avez un accusé, tout l'accable. Et vous êtes la voix qui dit, mais attendez, n'allez pas trop vite. Voilà. C'est une forme d'insoumission.
Mais ça veut dire aussi, et ça vous le partagez avec Jean-Luc Mélenchon, être habité par ses passions. La passion, en l'occurrence, c'est vous du droit. La passion pour ce métier. Elle est née, il faut le rappeler, presque par hasard, un 28 juillet 1976. Vous avez 15 ans. Vous écoutez la radio, Éric Dupond-Méritier, vous apprenez l'exécution d'un homme qui s'appelle Christian Ranucci. Quel choc est-ce que ça a été pour vous? Qu'est-ce que ça a déclenché chez
vous? Ça m'a bouleversé. Et je suis incapable de vous dire pourquoi aujourd'hui. Vous savez, pendant toute une période de sa vie, en tous les cas de la mienne, on fait les choses sans essayer de comprendre. On les fait presque naturellement, comme Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Puis là, j'arrive vers la soixantaine, et je me dis qu'il y en a moins à faire que ce que j'ai déjà fait. Et là, on se pose quelques questions. Mais pourquoi j'ai choisi ce métier? Comment? Etc. Bon. Et les réponses, elles viennent petit à petit. Et parmi les choses qui m'ont amené vers ce métier et vers cette passion, il y a effectivement le jour où j'apprends l'exécution de Ranucci. Ça me bouleverse. Et ça nourrit une espèce de romantisme morbide d'adolescent. Ça m'a jamais quitté.
Quel avocat est-ce que vous rêviez de devenir?
Je sais pas, je connaissais aucun avocat. J'étais pas du sérail judiciaire, j'étais pas du milieu judiciaire. Mais je me rêvais avocat. Et au fond, je pratique le métier comme j'ai rêvé de le faire. Alors, est-ce que c'est une reconstruction? C'est bien possible, ça. Mais je me voyais de ville en ville, avec ma valise, allant de cour d'assises en cour d'assises, seul contre tous, aimant l'araignée et l'ortie.
Qu'est-ce qui fait un grand avocat pour vous?
Qu'est-ce qui fait un grand avocat? Ben, c'est quelqu'un qui se lève seul et qui trouve dans celui qu'il défend une part d'humanité qui est parfois cachée, et cachée très très loin. Et puis celui-là, il le regarde sous le prisme de ce qu'il est lui. Ce qui fait que deux avocats qui vont parler du même homme vont le faire de façon totalement différente.
C'est-à-dire que la vérité...
Mais la vérité, c'est tellement relatif, la vérité.
Ça représente rien pour...
Non, mais la vérité, vous savez, le contraire de la vérité en matière de justice, c'est pas forcément le mensonge.
Oui.
Ça peut être une autre vérité. Je parle beaucoup de la vérité dans la pièce, d'ailleurs.
Oui, vous dites que c'est devenu quelque chose de dangereux, même, la recherche de la vérité.
Ah ben, il y a beaucoup de saints justes aujourd'hui qui détiennent la vérité, la morale publique, etc.
Alors,
etc.
Où est-ce qu'elle s'exprime le mieux?
Mais elle s'exprime partout, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est relative. Dans un procès, vous avez la vérité de la victime, la vérité de l'accusé, celle du procureur, du président, des journalistes, du public. Ce sont des vérités relatives. J'illustre aussi mon propos par le divorce. Je dis, mais vous connaissez tous des divorcés. Elle dit qu'elle a raison, il dit qu'il a raison. Sa famille à elle dit qu'elle a raison, sa famille à lui dit qu'il a raison. Et au fond, qui a raison?
On va finir cette émission comme on l'a commencé. Avec Albert Camus, et en l'occurrence ici un extrait non plus de La Chute mais de L'Étranger, que vous avez choisi de nous lire ce matin. Pourquoi?
Est-ce que vous m'autorisez un petit aparté? Je voudrais dire un mot pour un monsieur qui est avocat, professeur d'université, qui s'appelle Maurice Canto, qui est détenu à Yaoundé au seul motif qu'il a pacifiquement manifesté son opposition au pouvoir. Il est détenu depuis 7 mois, il va être jugé le 8 octobre et il encourt la peine de mort.
On vous écoute.
Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi. Et peut-être plus de moi que de mon crime. Était-elle si différente d'ailleurs, ces plaidoiries? L'avocat levait les bras et plaidait coupable avec excuse. Le procureur tendait ses mains et dénonçait la culpabilité, mais sans excuse. Une chose pourtant me gênait vaguement. Malgré mes préoccupations, j'étais parfois tenté d'intervenir et mon avocat me disait alors « Taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire. » En quelque sorte. On avait l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention. Mon sort se réglait sans qu'on prenne mon avis. De temps en temps, j'avais envie d'interrompre tout le monde et de dire « Mais tout de même, qui est l'accusé? C'est important d'être accusé. » Et j'ai quelque chose à dire. Mes réflexions faites, je n'avais rien à dire.
Merci infiniment, Éric Dupond-Moretti, d'être venu ce matin dans cette émission. Je rappelle que À la barre est au Théâtre de la Madeleine du 25 au 29 septembre, puis du 17 au 21 décembre au Théâtre de la Madeleine aussi, ainsi que le 5 octobre à Lyon, le 30 à Enghien-les-Bains, le 9 novembre à Aix-en-Provence, sans vous oublier les 3 et 4 avril à la Salle Pleyel. Et puis il y aura même, on le murmure, New York et Montréal. On n'en finit plus tout de suite, les médias. Sonia De Villers, à l'instant M, juste après ça.
Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. Vivant.
Corps et d'esprit, Bertrand Belin sur France Inter et tout de suite les médias, Sonia.
Ouh là là, on est là.
De salut. Corps et d'esprit.
Exactement. Salut, salut Augustin.